Est-ce la bonne décision ? Quelque chose ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Le débat a déjà commencé. Bonjour et bienvenue. Est-ce qu'il faut prendre au sérieux le signal d'alarme de la Cour des comptes ? C'est un peu toujours le même. Les finances publiques vont mal, gare à la dette. Je vous citais hier Didier Migaud, qui est passé avant Pierre Moscovici. Je vous citais Philippe Séguin. Ils ont tous dit la même chose sur la dette. Bon, entre-temps, elle a triplé. Ah, est-ce qu'il faut s'inquiéter, cette fois-ci, plus qu'une autre ? Est-ce que le fameux mur de la dette est devant nous et que nous allons nous fracasser ? En tout cas, la Banque de France a révisé à nouveau à la baisse sa prévision de croissance. On n'est plus à 0,9, mais à 0,8. Est-ce qu'il faudra aller plus loin que les 10 milliards d'euros d'économies annoncées pour 2024. Dans la même veine d'ailleurs que la Cour des comptes, François Villeroy de Galhau indique dans le Figaro que nos déficits pèsent sur notre crédibilité. Bon. Alors on veut faire des économies. Emmanuel Macron réunissait hier 700 hauts fonctionnaires pour leur dire changer de culture. Et on a quand même créé un nouveau haut commissaire à la formation professionnelle. C'est un ancien collaborateur d'Olivier Dussopt, Geoffroy de Vitry, qui devient haut commissaire à la formation professionnelle. On dira un mot de l'IA Act qui passe aujourd'hui devant le Parlement européen. Peut-être aussi un mot des dividendes mondiaux qui n'ont jamais été aussi. Les résultats sont records, donc les dividendes sont records. On est au-delà des 1600 milliards de dollars de dividendes dans le monde, selon Janus Anderson. Et puis cette guerre commerciale Chine et Union européenne. Alors l'Union européenne enquête pour taxer les voitures chinoises qui sont subventionnées par Pékin. Pékin, du coup, enquête pour taxer les eaux de vie importées d'Europe et le cognac en tête. D'ailleurs, ce qui est extraordinaire, c'est que l'enquête de Pékin, il faut y répondre en chinois, car le formulaire est libéré en chinois. Bonjour Benjamin Coria.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes professeur de Sciences Éco à Paris 13, membre du comité d'animation des économistes atterrés. Vous avez publié Le bien commun, le climat et le marché. Réponse à Jean Tirole aux éditions Les liens qui libèrent. Sylvain Réby, bonjour.
Bonjour Nicolas.
Président d'Orientis. Christian Poyot, bonjour.
Bonjour Nicolas Dose.
PDG de Micropole. Vous me disiez juste avant de prendre l'antenne, c'est quand même extraordinaire, on fait des économies et on nomme un haut commissaire.
Mais c'est,
je dois avouer que...
C'est bien le point principal. Est-ce que le déficit de l'État est à un niveau record et qu'il est dans la réalité pas soutenable ? Je pense que tout le monde est à peu près d'accord pour ça. Après, c'est le sujet, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Bon, alors je pense qu'on va en débattre un petit peu après, mais c'est totalement schizophrénique, c'est qu'on voit des grandes déclarations, on voit, comme vous l'avez cité également, le président de la République qui tense les hauts fonctionnaires en disant qu'il faut être plus efficace, etc. Et le lendemain, pof, on crée un nouveau haut-commissaire. Alors, j'ai rien contre ce monsieur, je ne le connais pas, etc. Mais on se dit que c'est au commissariat, bah, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire des rapports, il va auditionner, il va demander à changer des lois, à faire de nouvelles règles, etc. Sinon, ça ne sert à rien, on est bien d'accord. Bon. Donc, un nouveau commissaire égale bah, plus de règles, plus de lois, plus de normes, plus de choses à respecter, etc. Donc, c'est à l'antithèse de ce qu'on a dit 5 minutes avant. C'est quand même absolument délirant. On a combien de hauts commissaires en France ?
Bon, j'ai pas la liste. Enfin, on a un nouvel observatoire de la haie.
Ah, bah voilà, un observatoire aussi.
De la haie, parce que vous savez, la haie, ça a été un gros sujet aussi.
Oui, voilà. Alors, je dis pas, je ne pense pas que ce soit ce haut commissariat qui va grever encore. Enfin, il va le grever, mais pas
non, les importants. Les montants ne sont pas
colossaux. Mais c'est le principe. C'est le principe. Moi, je réagis en chef d'entreprise, OK ? On se dit, tiens, on a trop de charges. Ok, alors c'est jamais très simple dans une entreprise non plus. Hein. Qu'est-ce qu'on fait, sur quel sujet on agit, comment on communique, etc. Mais on n'est pas 5 minutes après en train de recréer quelque chose qui rajoute des charges. L'état d'esprit est quand même absolument hallucinant. Voilà.
L'observatoire de la haie, c'est vrai que ça. Alors oui, c'est sûr que comme vous le dites, c'est pas des montants astronomiques. Quand Gabriel Attal avait annoncé qu'il voulait fermer les comités Théodule qui ne se réunissent jamais.
C'est l'état d'esprit.
Oui, c'est l'état d'esprit. Nicolas. J'avais été surpris d'ailleurs d'apprendre que l'ensemble de ces comités dans tous les sens coûte à peu près 30 millions d'euros par an. On n'est pas sur un truc absolument dingo, mais...
Bon, c'est pas non plus, attendez. Si ma mémoire est bonne, les derniers hauts commissaires qu'on a eus, c'était des gens qui étaient des ministres, en fait. C'est une sorte de ministre, le haut commissaire. Oui. On avait le haut commissaire à la santé, comment s'appelle-t-il ?
Oui.
Vous vous souvenez ? Bon, son nom me reviendra. C'est une sorte de ministre. Si on avait dit, on crée un ministre à la formation professionnelle de... Je pense que mon ami Christian n'aurait rien dit. Alors, c'est une question de terme. Maintenant, sur le fond, je le rejoins. C'est vrai que quand on demande de simplifier les choses et de réduire le poids de l'administration, créer un ministère de plus ou une, une organisation de plus, c'est pas forcément très très malin. Cela dit, si je peux revenir,
oui,
sur la réunion d'Emmanuel Macron hier avec les 700 hauts fonctionnaires. Et je l'ai dit ici, puisque j'ai travaillé sur la simplification à l'époque, en 2017-2018, à Bercy, lors de la loi
PACTE. Elle est pour juin, la loi, la nouvelle, le juin,
oui, paraît-il. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que ce qui crée les normes et ce qui crée, ce qui nuit à la simplification, c'est l'administration centrale. C'est les 180 et quelques administrations centrales qui créent et qui développent ces normes ou qui ne les suppriment pas. Et donc, à qui faut-il parler pour simplifier ? C'est à l'administration centrale.
C'est bien ce qu'il a fait.
Bien sûr. Voilà. Donc je dis, il a eu raison de le faire, parce qu'au niveau des ministres, c'est impossible. Un ministre n'a pas la main sur l'administration centrale. Celui qui a la main, c'est à Matignon, c'est le secrétaire, ou je crois la secrétaire générale du gouvernement, qui a la main sur l'administration centrale, qui la gère et qui lui donne des ordres. Ces ordres, ils ne peuvent venir que du président de la République et de l'Élysée. Si... Et on l'a toujours dit, pour simplifier, il faut que ce soit l'Élysée qui donne le là.
Ah ben...
Si Emmanuel Macron met du poids là en leur disant « il faut simplifier, sinon c'est Bibi qui paye », a-t-il dit.
Il nous a ressorti Bibi.
Eh bien, voilà, il a ressorti Bibi. Eh bien, s'il dit ça, c'est important parce que c'est lui et lui seul qui a la main. Personne, ouais. Nicolas Sarkozy à l'époque à Bercy, n'a jamais réussi à avoir la main sur l'administration centrale, l'administration de Bercy. Et donc, il n'y a que le président de la République qui peut faire ça, et j'estime que c'est un bon signe qu'il l'ait fait hier. Ouais. Nous verrons si ça pèsera, mais voilà un bon début.
Je rappelle, et je vous donne la parole, Benjamin Cordier, ce que disait Guillaume Poitrinal, qui vous a précédé justement sur ces chantiers de simplification, lui dit la seule chance d'y arriver, c'est vous bloquer une partie du premier étage de l'Élysée, ouais, et vous y mettez des acteurs de la simplification qui dépendent directement de l'autorité du président de la République. Et ça vient de gens qui connaissent ce sujet de la simplification, parce que quand même, Poitrinal avait travaillé en tandem avec Thierry Mondon sous François Hollande sur ce dossier-là. Par rapport à ce qu'on vient de se dire, avant de revenir sur les économies de dépenses publiques, Benjamin Coria.
Non, mais si vous voulez qu'il y ait un problème de simplification, je crois qu'on est tous d'accord.
Là, oui.
Qu'il y ait un rôle des hauts fonctionnaires, etc., qui bloquent ou qui, en tout cas, font pas ce qu'il faut, j'en doute pas. Hein, j'en doute pas, et sous tous les gouvernements, hein, je veux dire.
Ah oui.
Voilà, il y a une tradition de cette caste.
On dit les ministres passent, les fonctionnaires restent.
Mais ce que je voudrais rajouter, oui, c'est que moi, je pense que la vraie question, je dis pas que cette question-là n'existe pas, hein, vous avez bien compris, hein, je dis que la vraie question, c'est la vision et la cacophonie de la vision. Qu'est-ce qu'on veut ? Qu'est-ce qu'on veut ? Alors, je donne un seul exemple, mais après le pacte vert, après la planification écologique, après ce quinquennat sera écologique ou ne sera pas, ping ! Après, notamment, le mouvement paysan, qui a beaucoup de raisons d'exister, on a tout foutu en l'air. Alors maintenant, les normes, on les fait où ? On simplifie quoi ? Quand, comment ? Donc la vraie question, c'est pour ça que moi j'ai trouvé, je le dis comme je le pense, hein, j'ai trouvé la prestation de Macron pitoyable. C'est pitoyable.
Celle d'hier avec les 700.
Mais oui, parce qu'il faut qu'il donne une orientation. Il n'est pas là pour dire agitez-vous, faites ceci, faites cela. Il est là pour dire on l'a fait la transition écologique et on l'a fait comment ? Avec quoi ? Avec quelles normes ? On aide le monde agricole, notamment, hein, je fais référence au dernier rapport du... comment ça s'appelle ça ? Non, c'est pas le Conseil d'État, c'est de la Cour des comptes, qui liste 12 grands domaines. C'est là qu'elle est la question. Une fois qu'on a une vision claire et qu'on n'en change pas tous les 6 mois, alors oui, on peut mettre au pas les hauts fonctionnaires. Mais dans la mesure où c'est absolument, je veux pas dire n'importe quoi, mais presque, en tout cas, des virages.
Il y en a pas mal, des virages.
En permanence.
Oui, oui,
vous voulez qu'ils fassent quoi ?
J'ai pas trouvé un grand pays, Benjamin Coria, qui n'a pas fait des virages sur les contraintes et les agendas verts face aux résistances des populations ou de différents secteurs.
Oui, il y a une remise
d'accord.
Mais je veux dire, on ne peut demander aux fonctionnaires qui sont en position de faire exécuter. les choses, c'est-à-dire les hauts fonctionnaires, etc., qu'à partir du moment où ils ont des orientations claires. Quand c'est le flou, voire le changement de direction actuel, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent ?
Vous avez vu que Bruno Le Maire a pris deux engagements clairs, la suppression des 1800 CERFA français en 2030 et divisé par deux le code du commerce d'ici 2027.
Non mais même ça, mais parlons-en.
Parlons-en,
divisé par deux le code du commerce, moi je pense que c'est une folie.
Folie, il ne faut pas le faire ou on n'y arrivera pas enfin,
Non, il ne faut pas le faire. On n'y arrivera pas et il ne faut pas le faire. Il faut certainement simplifier. Mais je veux dire, l'expérience... Non mais écoutez, moi, j'ai un avantage, je suis universitaire, je voyage beaucoup. Bien. En Chine... par exemple, il n'y a pas une personne qui passe 10 minutes sur chaque produit alimentaire pour savoir si elle va l'acheter ou pas. Parce que, pour d'autres raisons, il n'y a pas de réglementation, ou en tout cas, tout le monde s'en fout. Personne ne le respecte. Donc, je dis, c'est une folie de annoncer qu'on va supprimer la moitié des réglementations. Les effets peuvent être catastrophiques. Rappelez-vous de la déréglementation financière, la déréglementation du code du commerce peut avoir des effets encore plus catastrophiques.
Je suis incapable, je ne suis pas assez expert pour vous répondre. Mais...
C'est un processus qui ne peut être mené que très lentement et avec beaucoup de maîtrise.
Mais j'ose imaginer qu'on est peut-être capable de faire des choses comme ça.
Non, moi je crois qu'on n'est pas capable.
Dans ces cas-là, on n'y arrivera jamais.
La forme de l'effet d'annonce, dans un an, on va supprimer la moitié des articles. Ça, on est absolument incapable. En mesurant les effets.
Il faut faire le travail. Je suis pas d'accord sur le sujet du changement de cap. Est-ce que le sujet de la transition écologique est un sujet qui s'impose à nous? Tout le monde est d'accord là-dessus. Le point, c'est comment on le met en œuvre. Alors, il y a d'un côté les raisonnements théoriques qu'il faut avoir, qui sont indispensables pour pouvoir avoir une vision globale. Mais après, ce qui pêche le plus en France, c'est la transposition pratique.
Oui.
À quelle vitesse? Comment? Alors, il y a l'adaptation. psychologique de tout le monde, du corps social, des entreprises, etc. Et puis, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ce que font nos concurrents? Alors, la théorie, donc c'est, je redis, il ne s'agit pas de critiquer la théorie, c'est nécessaire, c'est indispensable.
Mais
après,
je ne parle pas de la théorie.
Pratique,
hein.
La pratique, ça l'est aussi. Et aujourd'hui, on crève sous les normes. On en a plus que tous les autres pays, d'accord? Donc, il ne s'agit pas de dire qu'on va diviser le code du commerce par 2, par 3, par 0, j'en sais rien. Revisitons-le. Le code du travail, c'est pareil. Revisitons-le. Oui. Mais revisitons-le en ayant un équilibre adéquat, on va dire, entre une vision de l'objectif, de la théorie, mais surtout de la pratique. Oui. En France, ce sur quoi on pêche souvent, c'est que vous pouvez regarder les différents organismes de régulation, tout ce que vous voulez, quelle est la part des chefs d'entreprise dedans? Elle est extrêmement faible, pour ne pas dire dans la majorité des cas, totalement inexistante. Je cite l'exemple de la Suisse. Sur la Suisse, quand ils mettent en place des réglementations, il y a un collège dans lequel il y a moitié du corps économique, si j'ose dire, et moitié du corps, électoral, enfin, en tout cas, qui est plus régalien, si j'ose dire. Voilà. On n'a pas ça en France. Donc...
C'est prévu, dans la.
Oui, c'est prévu, mais c'est.
Test PME, PME une mesure avant de l'appliquer.
Faut faire bouger les lignes là-dessus. Il y a un travail extrêmement important. Le poids global des réglementations, normes, procédures est étouffant en France.
Évidemment.
Simon Rémy, vous réagirez.
Diviser par deux le nombre d'articles du code du commerce, ça ne veut pas dire qu'on ne surveille plus les produits qui sont vendus dans les supermarchés.
Oui, on va faire comment
vous l'avez pensé tout à l'heure. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre d'obligations qui pèsent sur les entreprises, sur les artisans, qui sont trop lourdes, des obligations administratives, par exemple, qu'il faut revoir, qui ne sont plus de ce temps. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut enlever le contrôle sur ce qui est vendu ou la façon dont c'est vendu, c'est qu'il faut simplement simplifier la tâche des chefs d'entreprise, et que ça va nous faire gagner beaucoup de temps et ça va gagner beaucoup d'argent collectivement. Donc oui, évidemment, il faut diviser par deux le code du commerce, comme il faut simplifier le code du travail, etc. Ça ne veut pas dire que c'est au détriment du consommateur.
Oui. Alors, moi, là où on ne peut pas partir du principe qu'il faut simplifier, mais qu'on n'y arrivera pas, Benjamin Correa.
Je n'ai pas dit ça.
Je crains que vous ayez un peu raison sur le « sait-on le faire ? Est-on capable de le faire ?» C'est comme la réforme de l'État. Est-ce qu'on est capable en France de la faire ? L'efficacité de la dépense publique, est-ce qu'on est capable de poser le sujet et de le traiter ?
J'ai commencé par dire « oui, il faut simplifier, etc. » J'ai aucun souci là-dessus.
Mais en disant d'ailleurs, on n'y arrivera pas.
Et je veux dire, je n'ai pas besoin d'être chef d'entreprise, comme consommateur ou comme fonctionnaire. Je vois vois bien. Je vois bien. Je veux dire, pour dépenser 30 centimes à l'université, il faut remplir 14 papiers. C'est pas possible. C'est pas possible. Y compris par rapport à nos amis, collègues et rivaux internationaux. Il y a toutes sortes d'initiatives qu'on peut pas prendre. Bon. Et faire progresser la recherche française. Donc, je souscris. Mais ce contre quoi je m'élève, c'est les effets d'annonce de type, on va diviser par deux le code du commerce dans les 6 mois qui viennent, tenser les fonctionnaires,
pas 6 mois,
etc.
Quand même.
Bon,
non, non, mais il y a un effet d'annonce.
C'est pas comme ça. Moi, je suis d'accord avec vous.
Dieu sait que si des effets d'annonce sont la réforme de l'État.
Comment on fait, etc. Comment, non seulement les chefs d'entreprise, mais les groupes sociaux concernés par les différentes réglementations doivent être fortement représentés. Je suis parfaitement d'accord avec tout ça.
Mais
je dis, c'est le contraire de dire on va diviser par deux le code du commerce, on va faire ceci, on va faire cela.
J'en prends ce que disait Nicolas, à l'instant, on va pas y arriver. Mais alors, si on commence comme ça, faut mieux aller se coucher, quoi. Genre,
etc. On commence pas par afficher des trucs dont on sait qu'on va pas les tenir. On dit la même chose, mais de manière crédible.
Crédible.
Voilà, c'est tout.
Y a-t-il en ce moment un état d'esprit qui évolue sur ce sujet-là?
Cette fameuse maxime qui dit « ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait
oui. ».
Il faut quand même la garder en tête. Hein.
Oui, j'ai envie
à force de dire que tout est impossible, on ne fait rien.
Oui,
donc, il faut être un peu volontariste.
Ceux qui pensent qu'on n'y arrivera pas sont priés de laisser tranquille ceux qui agissent.
C'est quand même un sacré chantier. Qui s'en occupe, comment ça va s'incarner.
C'est ça la question.
On
est dans les effets d'annonce.
Je pense que Poitrinal a raison. Il faut une sorte de task force à l'Élysée qui est chargée de ça avec des gens compétents parce que c'est juste.
C'est ce qui est cette année hier.
Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, Benjamin Cordia. Comment vous avez vécu la séquence moins 10 milliards et moins 20 milliards là, qui nous a occupés pendant 15 jours. Vous vous dites, c'est l'urgence absolue, un petit peu dans la ligne de ce que dit Pierre Moscovici à la Cour des comptes, menace sur la dette. Enfin, voilà.
Non, mais moi je l'ai vécu tout simplement comme le retour de la réalité. C'est-à-dire que nos performances macroéconomiques sont mauvaises. Effectivement, moi, vous savez que je ne suis pas de ceux qui disent la question de la dette, c'est sans intérêt, ça n'existe pas, etc. Ça existe, et ça doit être géré. Bon, ça ne veut pas dire qu'il faut tout soumettre à ça, mais ça existe. On ne peut pas faire semblant que ça n'existe pas. Il n'y a qu'à voir le pourcentage du budget qui y est consacré, qui risque d'y être consacré, si les taux d'intérêt montent. Bon. Donc, moi, j'ai vécu ça comme le retour de la réalité. Ça veut dire que...
Il faut trouver de l'argent coûte que coûte et on y va.
Voilà. Bon. Mais j'ai aussi vécu ça, bien sûr, par sous la forme le numéro... qui a eu de gros effets, hein, de blocage général de la fiscalité depuis 7 ans, ça revient. Hein,
c'est ça. Vous voulez dire quoi? Vous voulez dire que
ça veut dire que on ne peut pas avoir de tabou sur rien.
Ah ben c'est ce que dit Moscovici.
On a un tabou sur on touche pas à la fiscalité et on la baisse. Et ben voilà.
Le retour de la réalité,
c'est que les équilibres macroéconomiques s'écroulent et qu'il faut prendre un ensemble de mesures.
On est allé trop loin sur les baisses d'impôts.
Ah oui. Enfin, pour ce qui concerne en particulier les impôts sur le capital, les impôts sur le haut revenu. On va parler tout à l'heure de la bourse.
J'ai pas prévu de la bourse.
Ça explose dans tous les coins. Ça explose dans tous les coins. Et quel est l'effet de ruissellement? Rien du tout. La même année où la bourse bat tous ses records, on est à 0,8% de croissance. Bon, je veux dire.
Il ne faut pas faire de lien entre la santé du CAC 40 et le PIB de la France.
Mais ça
n'a aucun rapport, Benjamin Coria, le PIB de la France et le CAC 40.
Mais
8 euros sur 10 sont gagnés à travers le monde.
Non, mais à condition que la politique ne soit pas orientée vers le too business. À ce moment-là, on peut dire que ça n'a aucun rapport. Mais ça a un rapport quand c'est au cœur de la politique économique.
On a une minute, mais on y revient après.
Il faut quand même dire.
Benjamin Coria,
Sylvain Rébi. Il faut quand même dire, Benjamin, que lorsque l'équipe Macron a commencé à baisser les impôts, ça a commencé en 2015 d'ailleurs, sous le Macron, ministre de l'économie et des finances, ça a continué en 2017, quand on a instauré la flat tax, quand on a mis une fiscalité qui ne bougeait plus tous les ans, qui n'augmentait pas, qui ne rebaissait pas au fil de l'eau, eh bien, on a obtenu des résultats pour la France qui sont meilleurs que la moyenne de l'Union européenne, qui sont meilleurs pour la plupart du temps que l'Allemagne. Mais si, c'est depuis ce moment-là que la France s'est développée, qu'elle a une croissance qui a été plus forte que celle de l'Allemagne.
La France, qui n'arrivait jamais avant.
Laissez-le finir.
Qui n'arrivait jamais avant. L'Allemagne était toujours devant nous, et maintenant, on est raisonnablement devant eux sur à peu près tous les domaines. Donc, c'est aussi l'effet de cette politique fiscale.
On marque une pause. Effectivement, il n'y a pas de tabou fiscal, dit Pierre Moscovici, qui s'est dit, alors l'homme du ras-le-bol fiscal 2013, qui dit que peut-être un impôt temporaire exceptionnel. Ça a été dans les propos qu'il tenait hier. On marque une pause dans les colonnes des Échos.
Oui, mais Biden
veut un impôt sur les milliardaires à 25% parce qu'il est en campagne. Mais c'est
la fiscalité aux États-Unis n'a rien à voir. L'Europe.
Je veux bien qu'on dise un mot justement sur est-ce que la fiscalité doit être un sujet tabou.
Il y a plein d'autres sujets qui sont tabous aujourd'hui avant de traiter celui-là.
Très bien. La réforme fiscale de 2017, c'est à celle-là qu'on fait référence, elle a abaissé, c'est vrai, la fiscalité sur le capital en la mettant à un niveau qui était à peu près comparable avec les autres pays. On n'est pas allé à des niveaux complètement hallucinants vers le bas. C'était peut-être pas mal de rester compétitif sur ce sujet, mais votre avis m'intéressera. J'espère qu'on pourra parler du reste, mais on se retrouve dans un instant.
Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Benjamin Coria, professeur de Sciences Éco à Paris 13, membre du comité d'animation des économistes atterrés, auteur du bien commun, le climat et le marché, réponse à Jean Tirole. Édition Les liens qui libèrent, Sylvain Horribil, président d'Orientis, l'été Cousmi. Christian Pourriot, le PDG de Micropole. Vous vouliez réagir, je vous ai coupé la parole avec la pub. J'ai des réactions. La hausse des marchés, ça ruisselle sur les gens qui investissent en bourse. Chaque Français devrait le faire, me dit cette
auditeur. Ah oui, bien sûr.
C'est pas votre avis, mais bon, voilà.
Oui, avec le SMIC, on va investir en bourse. Et en dessous du SMIC.
Et certains qui considère qu'on est déjà à un niveau de fiscalité suffisamment élevé. Il ne faut pas en rajouter. Vous voulez réagir, Christian Pourriot, sur pas de sujet tabou, la fiscalité n'est pas sujet tabou.
Qu'on dise qu'il n'y ait pas de sujet tabou, moi je veux bien le dire ça. Effectivement, quand on réfléchit à 360, j'entends le point. Enfin, rappelons que la fiscalité en France, alors sur certains sujets, elle est revenue au niveau européen, sur d'autres, elle ne l'est pas. Micropole est une entreprise de 95% de cadres, les cadres sont payés plus qu'en Allemagne. Voilà, c'est une réalité, si j'ose dire. Oui. Donc dire qu'on veut repartir dans une logique où on va réaugmenter les fiscalités alors qu'on est déjà les champions d'Europe ou en tout cas les anciens champions d'Europe, je suis désolé, mais on marche sur la tête. C'est pas là où il faut agir. Le déficit, il est lié à quoi? Alors déjà, pareil, chef d'entreprise, okay, vous faut réduire vos charges. C'est quoi la charge principale qui pèse sur les comptes publics du manière générale? C'est la partie sociale, si j'ose dire. Quand je dis ça, il ne s'agit pas de dire qu'on va la réduire, la détruire ou je ne sais pas quoi, mais il faut effectivement la retravailler. Il y a un débat en ce moment sur le sujet des transports santé. Les taxis font grève. Je crois que ça coûte 5 milliards par an.
5,7 milliards. Ça a considérablement augmenté, d'ailleurs.
J'ai plus en tête le comparatif par rapport à l'Allemagne, pour faire les comparatifs de pays similaires, mais on est deux fois plus cher.
Là, on est tous d'accord.
Rente qu'on a installée. Vous installez une rente pour l'éteindre, c'est compliqué.
On divise par deux, on passe de 5 à 2,5. Ça fait 2,5 milliards. Pof. Enfin,
On est d'accord là-dessus.
Voilà, c'est le genre de choses. On parle du CPF. Alors, le CPF...
100 euros de forfait pour utiliser son CPF.
Voilà, c'est l'invention de la française. Alors, sans vérifier, mais je pense qu'on doit être un des seuls pays dans lequel la formation est gratuite, enfin, ou était gratuite. Tout ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Alors, qu'on fasse ce genre de choses pour les populations en difficulté, les gens en réinsertion, etc., fine, pas de problème. Mais là, tout le monde y a droit. Et on a des effets d'aubaine, on vous paye le permis moto. Mais enfin, c'est quoi? Donc, c'est la collectivité qui paye le permis moto à tout le monde. Je suis motard, donc j'aime beaucoup la moto. Tranquille sur le sujet. Mais... il y a tout un tas de sujets où on doit agir. Alors, il n'y a pas un... Vous savez, c'est comme, encore une fois, je fais le comparatif entreprise, je pense que Sylvain me comprendra, quand on veut agir, il n'y a pas un bouton sur lequel on appuie, ça serait trop simple. Il y a 20 boutons, 30 boutons, 50 boutons, mais c'est un état d'esprit général, et si on se bouge et qu'on prend les vraies mesures, on va y arriver. Et dernier point, récemment, la SNCF est est positive en résultat.
Oui.
Mais c'est totalement faux. Là-dedans, il y a 30 milliards qui sont des subventions faites par les collectivités locales.
C'est 20 par an. 20 collectivités État. Voilà. Mais c'est normal que les SNCF.
Mais je ne dis pas le contraire. Mais si je veux dire, ne disons pas qu'on est en déficit, ce qui permet après, d'ailleurs, aux cheminots de dire faut qu'on distribue les bénéfices. C'est nous tous qui payons ce sujet. Et la SNCF est en déficit chronique. Vous voyez, il y a tout un tas de sujets. Donc, de dire qu'on ne peut pas arriver à trouver 10, 20 ou 30 milliards, c'est compliqué, difficile, ça fera effectivement des réactions fortes, mais on peut y arriver si on a la volonté politique, effectivement.
Sur le CPF, ça vous choque qu'il y ait 100 euros de reste à charge ?
Mais non, pas du tout, au contraire. Enfin, ça me semble évident.
Certains disent, mais quand on a une politique qui marche, même si elle a des effets d'aubaine, il faut continuer parce qu'elle fonctionne. Alors, l'apprentissage coûte très cher, seulement ça fonctionne. Est-ce qu'il faut aller mettre des règles, des freins, des empêchements ?
Mais en quoi est-ce que la formation marche aujourd'hui, franchement ? En quoi est-ce qu'elle est efficace ?
Et le CPF, aujourd'hui, il est sollicité. Il y a plus de 2 millions de CPF par an.
Ça coûte c'est gratuit. Mais est-ce que ça donne des effets positifs
sur l'économie ? C'est le problème, c'est qu'il y a des effets...
Est-ce que les gens sont mieux formés ?
Il y a des effets collatéraux qui ne sont pas ceux qu'on voit aujourd'hui.
La majorité va, encore une fois, sur des permis moto ou d'autres choses.
Il y a le permis moto, il y a le fait d'aller apprendre des langues étrangères
exotique.
Non, mais on peut pas à la fois.
Qu'en pensez-vous, Benjamin Coria ? Est-ce qu'il faut entraver parce qu'il y a des effets d'aubaine d'une politique publique qui produit des résultats ?
Juste d'un mot par rapport à ce que vous dites. J'ai pas de désaccord. Hein. Ça veut dire que quand il n'y a pas de tabou, il y a tabou sur rien. Oui. On est d'accord, mais il faut qu'il y ait des tabous sur rien. Donc ouvrons tout le spectre. Bon, on va pas reprendre le débat, mais c'est pour dire, c'est pas là-dessus qu'il y a un désaccord. Moi, je suis pas un malade de dire il faut augmenter la fiscalité. Je dis il y a pas de tabou sur la fiscalité, comme il y en a pas sur d'autres choses. Bon, alors maintenant, par rapport au CPF, on peut pas. C'est ça qui va pas. On peut pas être dans la situation française dans laquelle il y a un stock de main d'œuvre. Hein, j'emploie l'expression.
Allons-y.
Qui est parfaitement non qualifié, qui est largement inemployable, etc. Et mégoté. Sur les questions de formation. Il faut en faire beaucoup plus sur la formation.
C'est la position de ceux qui disent il y a de l'effet d'aubaine, ça coûte cher, mais il faut y aller.
Et c'est de l'économie. Alors, effectivement, il peut y avoir des effets d'aubaine, comme il y en a dans toutes les politiques publiques, mais toutes, de la première à la dernière.
C'est comme l'apprentissage.
J'ai presque envie de dire, il y a 7 milliards d'effets d'aubaine sur le crédit d'impôt recherche. Il n'y en a peut-être pas 7 milliards.
Vous allez un peu loin,
mais il y en a. Non. Mais comme.
Il y en a de l'effet d'aubaine.
Mais comme.
Philippe Aguillon l'a mis en lumière.
Toutes les agences qui se sont penchées sur le crédit d'impôt recherche, je pense qu'il est extrêmement mal foutu et que c'est des cadeaux faits de manière parfaitement indue. Pour partie, hein.
Dans certains cas, probablement. Et c'est probablement corrigeable.
Donc, oui. Des effets d'aubaine. Oui, il y a des effets d'aubaine. Essayons de les corriger. Mais c'est pas au nom des effets d'aubaine qu'il faut supprimer des politiques. Notamment, je le répète, dans des domaines comme celui de la formation, où la France a une performance catastrophique, si on en juge par la quantité de gens insuffisamment
formés. Oui, ça, vous avez raison.
Les chefs d'entreprise ne peuvent pas se plaindre.
On passe la parole, Benjamin.
Il faut
que la parole passe.
Ils se plaignent toute la journée qu'ils ne trouvent pas de main-d'œuvre qualifiée.
On a un sujet, Antoine.
Moi, je voudrais réagir sur le sujet d'effet d'aubaine. Qu'est-ce que ça veut dire, effet d'aubaine ? Parce que, ayant été président de Croissance Plus, ayant beaucoup œuvré au CBNF, j'ai vu plein de cas. Effet d'aubaine, pour moi, c'est quand on fait une loi. Et il y a 5%, 10%, 3%, enfin un pourcentage, mais minime, qui effectivement, lui, crée des effets d'aubaine qui ne sont pas vertueux, si je veux dire, et qu'il faudrait supprimer. Mais ça, sur ce point-là, soyons clairs, on n'y arrivera jamais. Sinon, on ne fait aucune loi, on fait une loi tellement verbeuse qu'on n'arrivera à rien faire du tout. Donc l'effet d'aubaine, il faut l'admettre, par principe. Je ne dis pas qu'il ne faut pas chercher à le contrer ou lutter, mais c'est comme ça.
Il faut le quantifier aussi.
Il faut le quantifier.
Sur le CIR.
Moi, je reviens sur le CPF. Quand on revient sur le sujet, il faut dire. Le CPF, si c'est pour former des gens, et je rejoins Benjamin là-dessus, qui sont en recherche d'emploi, en reconversion, en difficulté, mais très bien, allons-y. Et effectivement, il faut accélérer là-dessus. Mais les chiffres tels que je les ai en tête.
Les chômeurs ne sont pas concernés par les 100 euros.
Hein. Oui,
mais les salariés.
Ça, c'est un point important. Mais regardons les chiffres du CPF aujourd'hui, c'est pas du du tout le cas. C'est plus un effet d'aubaine, c'est 80% du CPF qui, en fait, est utilisé dans des choses, certes, forme sympathique. Encore une fois, je ne vais pas boucler sur le permis moto, mais c'est quand même pas ça, globalement, qui va changer la santé économique de la France. Donc là-dessus, c'est plus un effet d'aubaine. C'est une diversion, enfin, un détournement des fonds publics qu'il faut réguler. Donc, est-ce qu'il faut supprimer le CPF? Non, absolument pas. Il faut simplement l'orienter vers les gens qui en ont vraiment besoin, ce qui veut dire le réduire. Et puis après, si vous voulez, le CPF pour les gens qui ont un certain niveau de revenu, mais il n'y a pas de CPF, point barre. Enfin, à quel titre un cadre, on va lui payer son permis moto? Ça n'a aucun sens. C'est la même chose que quand on disait l'essence a été réduite de 20 centimes au moment de la crise du pétrole pour l'ensemble des Français. Ça n'a pas de sens.
C'était en 2022. Enfin,
je pense que c'est quand même des choses assez logiques. Donc ce n'est pas un effet d'aubaine.
Moi, je suis d'accord avec ça.
Bon, il y a Jean-Pierre qui me dit qu'il y a plein de formateurs du CPF qui ne sont pas bons. Voilà.
Qui sont
pas des bons formateurs.
La formation est gratuite depuis des années et on manque de formation en France quand même. Donc,
un mot sur les dividendes, 1660 milliards de dollars au niveau jamais atteint, mais les résultats des entreprises étant à des niveaux à peu près records pour les grands indices. Ce chiffre appelle une réaction particulière?
Non, parce que les dividendes ont augmenté de 8,7%, si j'ai bien lu. Les résultats ont augmenté à peu près d'autant, donc le dividende est stable en pourcentage des résultats.
C'est à peu près ça la conclusion.
Voilà, en gros, il n'y a rien de nouveau. Qu'on paye trop de dividendes, Benjamin va nous le dire, peut-être, mais en tout état de cause, l'augmentation des dividendes de 2023, elle est le reflet pur et simple de l'augmentation des résultats.
Non, mais
voilà. Et qui est moindre que l'augmentation de la bourse, qui est autre chose, qui a augmenté de le CAC a dû prendre 15 ou 16%, le S&P a pris 25%, le Nasdaq a pris 40%, et les dividendes n'ont pris que 8%. Alors, que la politique de dividendes ne vous convienne pas, c'est une chose, mais le fait que les dividendes augmentent de 8% cette année, c'est pas un sujet.
Il faut quand même se décorréler un peu des grands indices qu'on prend comme
photographie des entreprises.
Non, parce que les grands indices, il y a un effet. Le CAC 40, c'est un club de stars, tu vires les mauvais tous les 6 mois et tu fais rentrer des bons.
Prenez le S&P 500, il a pris 25%, ouais. C'est pas que
les stars. Un mot là-dessus, peut-être Benjamin Correa, mais.
Non, mais juste par rapport, il a pris 8% machin et tout. Quand vous êtes au dernier escalier avant d'arriver sur la terrasse, effectivement, il n'y a plus qu'un escalier, hein, je veux dire. La question, ce n'est pas celle-là. La question, c'est le taux le pourcentage. On est à plus de 70% profits qui sont versés sous forme de dividendes ou de rachat d'actions.
Non.
Ah ben alors, faites le calcul.
Alors là, il y a eu des cas
dans la France. Je parle de la France, hein. Je parle de la France. 70%. Écoutez, on refera le calcul.
Il y a eu des cas d'entreprises qui étaient à ces niveaux-là, mais pas toutes.
Il y a non seulement les dividendes, et encore une fois, je répète le fait qu'ils augmentent de 8%, comme vous dites. Il faut voir d'où ils partent. Bon, voilà, je veux dire, parce que mais c'est le taux qui importe. Bon, et il y a les rachats d'actions derrière, c'est-à-dire destruction de valeur.
C'est un autre sujet, le rachat.
Oui, mais c'est le même.
Non, c'est pas le même.
Mais si, parce qu'ils ont monté exactement en même temps. Bon,
rachat d'actions.
Mais le rachat d'actions,
on ne peut pas les mettre ensemble. C'est la même idée. C'est pour permettre aux détenteurs de titres passez-moi l'expression, mais de se gaver encore davantage.
C'est pour ça que
la destruction de valeur.
C'est pour ça que moi, cet auditeur qui.
Alors, et l'effet formidable de tout ça, c'est une économie à 0,8%, un chômage qui monte. Bon, on peut pas ne pas rapporter les deux choses.
Ce que dit Benjamin, c'est que si on distribuait pas de dividendes, l'économie serait à plus de 0,8%.
Ce que dit Benjamin, c'est que lorsque on n'avait pas ce taux de distribution des dividendes, c'est-à-dire les 30 glorieuses, etc., on a eu les meilleures années du capitalisme. C'est ça qu'il dit, Benjamin. Bon. Ça veut dire qu'on retombe sur les problèmes de fiscalité, de très hauts revenus, etc. Les périodes pendant lesquelles il y a des impôts proportionnels, etc., ont été les meilleures du point de vue de la croissance capitaliste. Voilà,
c'était une période où l'économie mondiale était florissante, c'était une période où on investissait énormément,
Laissez-le finir.
Ce ne sont pas les impôts, moi vous liez ça aux impôts, la haute croissance, moi je pense
que ça n'a rien à voir.
Parlez pas ensemble.
Bon, je dis un ensemble.
En tout cas, dont la fiscalité. Où vont ces dividendes?
Ah ben alors, la plupart, c'est quand même détenu par des fonds d'investissement qui expliquent d'ailleurs que l'essentiel de l'argent. Il faut rappeler que le dividende, quand vous versez 2 euros de dividende sur une action qui vaut 100, l'action, elle tombe à 98 quand même. Hein. Ce ne sont pas des étrennes. Voilà, ça va gréver d'autant la valeur du titre. La plupart des fonds expliquent que, d'ailleurs, il s'est parfaitement renseigné, tout ça est totalement réinvesti et irrigue l'économie.
Et ça irrigue aussi l'économie française, c'est ça que je veux dire.
C'est pour ça que c'est
certains. À 0,8%, elle est magnifiquement irriguée.
Certains considèrent que ce genre de chiffres devrait nous inciter à imaginer qu'il pourrait y avoir un financement alternatif au système de retraite par de la capitalisation.
Je ne suis pas complètement hostile à cette idée. Dans les fonds de pension, enfin, je ne sais pas la part des fonds de pension américains, norvégiens ou ce que veut, qui sont dans les titres du CAC 40.
Principalement des fonds. Il y a du fonds de pension, il y a du fonds souverain. Les gros détenteurs. Il y a du français aussi, quand même. Par exemple, les premiers actionnaires de Total Energy, ce sont les salariés. Les chiffres. Vous avez vu comment Total Energy a donné toute une série de chiffres hyper précis pour tuer le traditionnel Total bashing le jour de ses résultats. Parce que les résultats de Total, c'est l'émotion. Il y a une boîte qui crée l'émotion, c'est Total. Ils ont donné tous les éléments de participation, d'intéressement, de dividendes perçus par les salariés actionnaires. Waouh! Ça a calmé tout le monde ça a duré moins de 24 heures.
Ça vous a convaincu.
J'ai trouvé que les chiffres étaient convaincants. Ça vous a pas convaincu.
Que leur zéro carbone à 2050 m'a convaincu. C'est de la poudre aux yeux.
Je ne suis pas de votre avis.
On n'a pas le temps.
Je suis convaincu, Benjamin Coria, qu'on ne réussira pas la transition écologique en se passant.
J'allais dire la propagande. La communication de Total sur l'environnement, mais c'est honteux. Honteux.
Vous pouvez être. Je suis persuadé qu'on a besoin des milliards des groupes d'énergie pour réussir à la
transition. Ah oui, moi aussi, mais pas en leur laissant.
Alors, on est d'accord, on les taxant.
Bien sûr. Bon, c'est pas eux qui vont la faire, la transition. Elle va se faire contre eux, c'est évident.
Bon. C'est pas eux qui vont la faire, elle va se faire contre eux.
Bien sûr. Non, bien sûr. Et vous comptez sur Total pour faire la transition?
Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va taxer Total à un niveau nettement plus élevé que Chevron.
Il ne faut pas me faire dire ce que je ne dis pas. Je dis que la transition écologique se fera contre les grands groupes pétroliers et contre les banques. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'alliance des groupes pétroliers et des banques qui mettent la planète à feu et à sang. Voilà.
Je ne suis pas à la place de Patrick Pouyanné, mais c'est quelqu'un de très intelligent et il sait très bien qu'à une échelle de temps assez forte, les revenus du pétrole vont diminuer, soit parce que les ressources vont devenir de plus en plus chères, etc., soit parce qu'il y aura un bouffe très important sur l'électrique, etc. Donc, est-ce que, en tant que chef d'entreprise, il essaie de dire quel va être Total à 20 ans et j'ai besoin de la faire pivoter? J'en suis persuadé.
Je pense également.
Il faut regarder
ce qu'ils font.
C'est une chance pour la France d'avoir un champion pétrolier mondial. C'est un point très important. Parce que qu'est-ce qu'on fait? On ferme Total. Enfin, c'est pas ça non plus le sujet, quoi, je veux dire.
Mais il faut pas faire de caricature.
Ne faisons pas de caricature.
C'est pas Total qui va faire la transition écologique.
Il y a
des analystes extrêmement sérieux, y compris d'entreprises, qui expliquent que le plan de Total sur les questions vertes est honteux. De mystification dans ce raconte. C'est pas moi qui le dis, c'est des cabinets conseils.
La guerre économique. On va pas trancher le sujet de savoir. Moi, je pense que les pétroliers, on aura besoin de leur argent pour investir là-dedans et que.
Oui, moi aussi, pas à leur laissant.
C'est là où on n'est pas forcément d'accord. Parce que je suis un peu de l'avis de Christian. Je pense que ce sont quand même des managers éclairés qui savent à peu près où ils mettent les pieds. Vous avez vu ce que font les Saoudiens de l'argent du pétrole? Ils investissent dans la transition sur leur sol. Ils sont pas en train d'investir pour aller chercher du pétrole.
C'est une autre question.
Ça participe d'à peu près de la même logique. Bon, guerre commerciale. L'Europe veut taxer les voitures chinoises. Et du coup, les Chinois veulent taxer le cognac.
Eh ben voilà, c'est les conneries habituelles du protectionnisme. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Je suis de votre avis.
C'est vieux comme le monde. Pourquoi est-ce qu'on est protectionniste en pensant que les autres vont pas l'être? Enfin voilà. Donc vous taxez les voitures chinoises, ils taxent les alcools français. End of the game. Ouais, le truc c'est que ça marche comme ça. Aujourd'hui, vous pouvez pas espérer taxer tous les gars qui vous vendent des trucs et puis leur dire mais moi je vais te vendre des produits puis tu vas pas les taxer. Non. Où les Chinois sont plus forts que nous ou c'est nous qui sommes les plus forts? Aujourd'hui, qui est le plus fort, on ne sait pas. Mais en tout cas, on peut pas. C'est bilatéral les relations internationales aujourd'hui. C'est plus un monde magnifique où on se met tous d'accord pour faire.
Ça l'a rarement été.
Oui, mais donc aujourd'hui, on est face aux Chinois. On les bloque, ils nous bloquent. Point final. Et c'est pareil avec les Américains. Donc avec l'IRA, on n'a pas été contre eux. On s'est écrasé, on n'a rien fait, et on a peut-être eu tort, mais en tout état de cause, cette histoire de protectionnisme est absurde. Elle a toujours été absurde, elle ne mène nulle part, elle mène plus à la guerre et à la faillite que la prospérité.
Mais l'histoire vous donne raison, Sylvain, mais l'histoire se répète à tous les coups.
Mais pourquoi?
À tous les coups.
Il y a un moment, il faut arrêter ces conneries.
Alors moi, je vais pas être complètement...
Christian Poyot.
Avec mon ami Sylvain, est-ce qu'il faudrait supprimer le protectionnisme? Oui, bien sûr, si tout le monde avait les mêmes règles, les mêmes normes, etc., etc. Force est de constater que c'est pas le cas, parce que les voitures françaises, quand elles rentrent en Chine, elles sont taxées à 15%. Les voitures chinoises, quand elles rentrent chez nous, elles sont à 10%.
À 10%.
Ça, c'est le premier point, c'est la taxation.
Il y a une différence.
Deuxièmement, on sait très bien que les constructeurs chinois qui sont en surproduction, parce que le marché chinois s'est réduit et qu'ils avaient investi très fortement, sont subventionnés par l'État, tout le monde le sait, et donc en plus, ça leur permet d'être plus agressifs sur les prix.
Mais donc, du coup, le consommateur français, il paye moins cher grâce au gouvernement chinois.
Peut-être, mais...
Position Jean-Marc Daniel.
C'est une réalité.
Je ne parle pas du côté écologique.
Si vous faites du protectionnisme, celui du chinois, c'est pas bon. C'est le consommateur qui paiera à la fin.
Dans ce cas, ça va détruire toute notre industrie. Et qu'est-ce que font les Américains? Ben, effectivement, avec l'IRA, ils luttent contre ça en attirant les capitaux. Donc, le protectionnisme, moi, c'est pareil, c'est un mot qui me... À la base, qui ne me convient pas, on est bien d'accord. Mais force est de constater qu'on est face à des pays qui, eux, ne jouent pas le jeu. Et ce qu'on demande toujours en tant que chef d'entreprise, c'est laissez-nous agir, mais on a tous la même règle. Et puis après, que le meilleur gagne. C'est un peu ça le sujet. Et là, pour le coup, la concurrence est faussée. Les constructeurs automobiles français, européens, etc., partent avec des sacs à dos dans le dos chargés de kilos et de tonnes, si j'ose dire.
Et de normes.
Ah, mais bien sûr. Mais alors, tout à fait.
Et de normes européennes.
Donc ça détruit encore plus le sujet. Mais face aux Chinois, on ne peut pas se permettre d'être naïf quand même.
Je suis d'accord, mais vous prenez les deux constructeurs qui vendent beaucoup en Chine, Mercedes et Volkswagen, ils défendent l'idée.
Ah, ben bien sûr.
Ils sont contre l'idée que l'Union européenne aille au bout de son projet. Tandis que les Français sont plutôt. La réponse, c'est en fonction des intérêts de chacun.
Coup, c'est les États qui doivent prendre la main. C'est pas aux entreprises. Une fois, l'État, pour moi, il est chargé de mettre en place un terrain de jeu qui soit équitable pour les entreprises et dans lequel elles puissent chacun mettre en place leur créativité, leur innovation. Si on a un terrain de jeu où il y en a qui courent avec des chaînes aux pieds, ça devient compliqué quand même.
Les deux arguments s'entendent, celui de Sylvain et le vôtre aussi. C'est pour ça que l'arbitrage n'est pas évident. Benjamin Correa, par rapport à cette situation. C'est encore l'histoire qui se répète, il a raison, Sylvain.
Moi, le protectionnisme non plus, c'est pas du tout ma tasse de thé. Mais bon, ce que vous avez dit est parfaitement juste. La question, c'est qu'on n'est ni en protectionnisme plein pot, ni libre-échange plein pot. De toute façon, on est dans une situation hybride, un peu confuse, dans laquelle soit à travers les normes, soit à travers les taxes, soit à travers les financements directs, les aides publiques, les conditions de concurrence idéales, entre guillemets, de toute façon, ne sont respectées nulle part.
C'est un objectif, inatteignable.
Donc, la vraie question est probablement inatteignable. Donc, la vraie question, c'est, puisque de toute façon... tous les pays recourent d'une manière ou d'une autre à des taxes, à des financements.
C'est la vérité.
Sur quoi le fait-on? À quel moment? Qu'est-ce qui doit être défendu, protégé, au prix de certaines conséquences, bien entendu, et rétorsions? C'est ça la question. Bon, donc, sur la question de la voiture électrique, compte tenu de l'enjeu qu'il y a là derrière, moi, ça me semble très difficile qu'on fasse rien et qu'on laisse le marché européen être complètement envahi par les voitures électriques. Parce que c'est une boutade, hein, quand vous dites on va payer moins cher les voitures électriques. Oui, à condition d'avoir un emploi, hein. Si on commence par détruire tous les emplois liés à la voiture, il y en a beaucoup qui ont des voitures thermiques et qui n'auront jamais de voiture électrique. Donc voilà, il y a des choix stratégiques, voilà, c'est tout. Et le monde ne sera jamais ni blanc ni noir, de libre-échange, de protection.
Il faut accepter qu'on vendra moins de vin et de produits liquoreux en Chine et qu'il y aura moins d'emplois en France. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Il y en aura plus dans l'automobile, il y en aura moins dans l'alcool.
On va savoir à la fin qui va gagner.
Je ne dis pas qu'il faut défendre cet accord-là. Qu'il faut avoir une pensée stratégique sur qu'est-ce qu'on défend et qu'est-ce qu'on défend moins. Tout.
Alors sur l'automobile, c'est avec Carlos Tavares, qui est l'un des premiers quand même à avoir tiré le signal d'alarme, avait d'ores et déjà expliqué que les doctrines européennes sur la transformation du thermique à l'électrique, c'était un Buy China Act. Et en fait, il avait très probablement
raison. Oui, là, vraiment, le sujet des normes qui pèsent, on en a parlé, mais sur les voitures, etc., est un poids à nouveau colossal. Donc, on se tire des balles dans le pied, grande dimension.
Oui, sauf si, enfin, moi, c'est un sujet auquel je tiens beaucoup, sauf si un certain nombre de normes servent à interdire, qu'on s'impose, servent à interdire l'importation. À ce moment-là, la question des normes devient une question beaucoup plus stratégique et plus seulement un poids.
Ah ben c'est le protectionnisme américain, c'est du protectionnisme par les normes, justement, du protectionnisme par les droits de l'homme.
Mais si les normes sont utiles, elles ne le sont pas toutes, en particulier en matière environnementale ou sociale, et qu'ensuite elles servent à se protéger, ma foi, on peut en discuter.
Alors question que nous envoie Nicolas Dose à 7h du matin, qui fait 8 pages environ. Je dévoile un peu les coulisses de l'émission.
Il est long, le SMS.
Il y avait le sujet d'une ouverture d'une mine de lithium en Auvergne.
Oui,
c'est exactement le même problème.
Imerys doit exploiter du lithium dans une mine existante au cœur de l'Auvergne, et le débat public pour savoir si on y va ou si on n'y va pas a débuté hier. Et vous imaginez que, il y a tous les avis qui circulent.
Mais en fait, on parle de la même chose. Si on est puriste, entre guillemets, on va dire, non, on ne fait pas cette usine de lithium parce que, d'une manière ou d'une autre, même si on est très précautionneux, ça aura un d'impact qu'on espère le plus réduit possible sur l'environnement. Il ne faut pas se raconter de bêtises.
Même si Imerys est très compétent.
Donc on ne la fait pas. Très bien. Mais à côté de ça, on veut des voitures électriques, on veut tout un tas de choses. Donc on va faire venir le lithium. Je crois que c'est le Chili qui a des plus gros producteurs, me semble-t-il, sauf erreur. Donc on va faire produire là-bas, dans les conditions environnementales certainement plus dégueulasses. Et puis on va faire le faire venir en train, en bateau, etc. etc.
Et ajouter de la dépendance économique.
Et ajouter de la dépendance, etc. Donc on marche sur la tête. On marche sur la tête, encore une fois. Il n'y a même pas de débat. Il faut l'ouvrir, cette mine. Bien sûr, il faut essayer de prendre le maximum de précautions sur l'écologie. Imposer que lors de la fermeture, mais qui sera dans, je sais pas, 20, 30 ans, etc., il y a peut-être une remise en forme du mieux possible, qu'on impose un minimum, des normes environnementales. Mais le fait même qu'on se pose la question, on marche sur la tête, encore une fois.
Le débat est ouvert. Moi, je trouve que cet endroit, ça sent la ZAD à plein nez, là, un de ces jours. Parce qu'évidemment que ce sera pas neutre écologiquement. Bah oui. On peut pas aller exploiter du nickel.
Les Alpes qui vont faire la politique économique de la France. Oui, je crois que ce temps est révolu.
Les Alpes.
Les ZAD.
Ah, les ZAD.
Les ZAD ne vont pas faire la politique économique de la France. C'est terminé. On a bien vu qu'ils ont tenté le coup sur la 69. Ça marche plus. Ça ne se produira plus.
Je pense que vous allez très vite. On va voir ce qui va se passer.
Oui, nous verrons.
En tout cas,
mais pas de menace de
sur le lithium dans l'Allier.
On n'est plus dans ce monde-là.
La ZAD de Notre-Dame-des-Landes sur l'aéroport, ils ont gagné. Bon, donc, je pense que là, vous allez très vite.
Il y a longtemps, l'aéroport. Les choses ont changé. D'ailleurs, c'est de là que c'est parti quand Édouard Philippe a nettoyé cette ZAD, et je crois qu'il ne s'en produira plus. Nous verrons.
Vous êtes très affirmatif.
Ah oui, je suis très affirmatif, parce qu'on a un État français qui est beaucoup plus fort aujourd'hui.
Non, mais la question, ce n'est pas un État français qui est fort ou pas. La question, c'est quel est l'État de l'opinion publique et de la volonté des Français sur les différents sujets. Ça, ce n'est pas tranché. On va voir.
Nous verrons.
Sur les sujets que vous évoquez, il y a eu des... On dit toujours qu'il faut décentraliser, donc il faut écouter les gens locaux, si je veux dire. Voilà, donc sur les sujets, là, tout le monde est d'accord, les collectivités locales, territoriales, départements, régions, les communes, tout le monde est d'accord. Et c'est quelques excités, pour le dire tel que je le pense, qui viennent mettre, bloquer le processus.
Vous parlez de la 69, là, c'est ça ?
Oui. Sur
la 69, il y a toute une série de
rapports. On ne va pas faire chaque sujet de ZAP, parce que là,
les rapports, on peut en faire de droite et de gauche, des rapports.
C'est fini,
voilà.
Mais bon. Benjamin quand même disait qu'il n'avait pas encore d'avis définitif sur le lithium.
Mais non, parce que je ne connais pas le sujet, je le découvre.
Bon, pour rigoler deux minutes, on peut parler de protectionnisme à l'envers sur le steak végétal. Vous avez entendu parler de cette histoire ?
Oui.
Le steak végétal, on n'a plus le droit d'appeler un steak végétal un truc qui n'est pas fait avec de la viande.
Oui.
En France.
Le mot steak.
Oui. En revanche, les Allemands, ils continuent. Ils peuvent en vendre chez nous du steak végétal. Mais nous, les Français, on n'a pas le droit. Ça, c'est malin.
Ça me rappelle vos histoires d'arômes de thé. Ça me rappelle vos arômes de thé. Vous avez imposé des arômes bio.
Interdit en Europe, mais autorisé à tous les pays tiers.
C'est de la
comment on peut être assez con en Europe pour faire des trucs pareils. Et même en France, c'est le protectionnisme à l'envers. On est à l'abri de rien.
Oui, là, c'est spécifique à la France. Sylvain. Oui, donc absolument. C'est la
Peu. Merci Benjamin Coria, Sylvain Rémy, Christian Poyot. On se retrouve demain à 9h. Ce sera le jour du Cercle des économistes. Et Stéphane Carcillo sera avec nous. À demain.
Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.